Tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Oana Favennec. Bonjour.
Bonjour.
L'Iran tente de faire trembler le monde après des incidents dans le détroit d'Hormuz. Téhéran annonce le démantèlement d'espions de la CIA. Vous entendrez l'analyse de Christian Chéneau. À Hong Kong, la population est sous le choc au lendemain d'une journée de manifestation qui s'éclose dans la violence. Leclerc puni par Bercy, l'ancienne de la grande distribution, doit payer une amende record pour avoir tenté de contourner la loi. Nicolas Hulot appelle les députés à se détourner du CETA. Dans une lettre ouverte, l'ancien ministre de l'écologie dénonce un texte auquel il a lui-même participé. Et à 12h45, on vous retrouve, Maëlys Bessery, pour la grande table d'été. Vous
nous
parlez de quoi ?
On va parler de Hauteville House, la maison de Victor Hugo de Guernesey, qui a rouvert ses portes après un an de restauration. Et puis nous ferons le portrait d'Akram Khan, le chorégraphe qui a occupé la cour d'honneur d'Avignon.
L'Iran annonce le démantèlement d'un réseau d'espions de l'intérieur. 17 agents des Iraniens qui travailleraient pour la CIA, arrêtés entre mars 2018 et mars 2019 par Téhéran. Plusieurs d'entre eux ont été condamnés à mort, selon les autorités iraniennes. D'autres sont envoyés en prison. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Que signifie l'annonce de ces arrestations ?
Écoutez, face aux pressions américaines, la République islamique serre les rangs. L'affaire des espions de la CIA est là pour rappeler à la population iranienne que les services de sécurité veillent au grain et sont prêts à étouffer dans l'œuf le moindre complot réel ou supposé. Bref, l'Iran se bunkérise dans un climat de paranoïa aigu, comme en témoigne l'arrestation début juin de l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelra, aujourd'hui détenue à la prison d'Evin. Sur le plan intérieur, les durs du régime ont le vent en poupe face au camp des modérés en perte de vitesse. Dans les eaux du golfe Persique, ce sont les gardiens de la révolution, les Pasdaran, avec leurs vedettes rapides qui sont à la manœuvre sous les ordres du guide de la révolution, Ali Khamenei, le leader suprême qui a promis une résistance héroïque aux Occidentaux.
Et chaque jour, il peut y avoir un incident. Un tanker britannique a été interpellé vendredi, arraisonné dans le détroit d'Hormuz par les gardiens de la Révolution. La veille, les États-Unis annonçaient avoir abattu un drone piloté par Téhéran qui se serait approché un peu trop près d'un de leurs navires. Le régime iranien se positionne donc dans une logique de harcèlement, Christian.
Oui, dans cette bataille navale, pour le moment sans victime, l'Iran cherche à répondre coup pour coup dans son bras de fer avec l'Occident. L'arraisonnement du pétrolier Stenheim Perrault battant pavillon britannique par la marine iranienne peut s'interpréter comme une réponse à l'interception du Grâce 1 par les autorités de Gibraltar, alors que ce tanker allait livrer du brut iranien à la Syrie. Ces incidents restent pour le moment soigneusement calibrés, mais leur multiplication ne fait qu'entretenir un climat de tension et montre que l'Iran n'a pas l'intention de déposer les armes. Téhéran joue la carte de la tension maximale pour forcer les Occidentaux à négocier une sortie de crise, mais avec le risque que les Européens qui parlent encore avec l'Iran se braquent et alimentent eux aussi la montée des périls.
Christian Chéneau, ce lundi, celle qui reste encore la première ministre britannique, Theresa May, tenait une réunion de crise consacrée aux pétroliers arizonais vendredi dans le détroit d'Hormuz. Une réunion interministérielle pour tenter de trouver un moyen de désamorcer la situation. Volodymyr Zelensky aura les mains libres au Parlement. Les Ukrainiens ont voté hier pour élire leurs représentants. Et après le dépouillement de la moitié des bulletins, le parti du président élu triomphalement il y a 3 mois dispose déjà de 42,4% des voix. Le parti serviteur du peuple pourrait donc disposer de la majorité absolue. Claude Bruyot à Kiev.
La prudence s'impose dans la mesure où le dépouillement est loin d'être terminé. Pour un scrutin à deux battants, la moitié des 424 sièges de députés est répartie en fonction des résultats des listes des partis et l'autre moitié des sièges sur le nom des candidats au scrutin majoritaire uninominal dans les circonscriptions. Et à ce stade, les analystes ici s'accordent à dire que les autres partis dont les candidats sont localement bien mieux implantés que ceux de Volodymyr Zelensky seront élus ou réélus en priorité, ce qui en quelque sorte rééquilibre le rapport de force, raison pour laquelle d'ailleurs Volodymyr Zelensky en personne dès hier soir a préféré appeler le parti du rocker ukrainien Vakarchuk à faire alliance avec sa formation au Parlement. Mais si au final la formation présidentielle obtient seule la majorité à l'issue d'un dépouillement qui va encore durer, ce sera effectivement un atout supplémentaire pour Volodymyr Zelensky, mais aussi une responsabilité encore plus grande pour appliquer réellement, et cette fois sans entrave, son programme dans les 5 années à venir.
Claude Bruyot. Les bulldozers israéliens sont arrivés ce matin dans les faubourgs de Jérusalem, dans le quartier de Sourbaer, pour démolir une dizaine de bâtiments, des habitations jugées illégales. La Cour suprême avait donné jusqu'à vendredi à leurs occupants pour les quitter, statuant sur Jérusalem-Est et la Cisjordanie occupée. Les Palestiniens estiment pourtant que la plupart des bâtiments visés par l'ordre de démolition est situé dans des zones censées être sous le contrôle civil de l'autorité palestinienne en vertu des accords d'Oslo. À Hong Kong, la grande manifestation d'hier s'est finie dans les gaz lacrymogènes et dans la violence. Aujourd'hui, la dirigeante de l'exécutif hongkongais Carrie Lam condamne ce qu'elle décrit comme une attaque contre le bureau de liaison chinois. Elle a également présenté ses condoléances aux blessés, y compris aux journalistes malmenés, et promis que les coupables seraient retrouvés et poursuivis. Mais elle n'a par exemple pas remis en cause l'attitude de la police qui a, selon certains, tardé à intervenir. À Hong Kong, Florence de Changy.
La chef de l'exécutif, Carrie Lam, a présenté ses condoléances aux blessés de la veille, y compris des journalistes, et a promis que les coupables seraient retrouvés et poursuivis. Mais elle n'a fait aucune annonce importante, ni remis en cause l'attitude de la police, alors que la population est véritablement sous le choc aujourd'hui de la sauvagerie de ses membres de triade, des hommes masqués et en t-shirt blanc pour la plupart, qui ont frappé comme des brutes sur tous les passagers du métro à Yuen Long, une ville faubourg très éloignée de l'île de Hong Kong, les accusant de revenir de la marche d'opposition au gouvernement. Il y aurait des dizaines de blessés, dont une personne entre la vie et la mort. Une femme enceinte aurait perdu son bébé. Or, la police a joué un rôle des plus équivoques. Elle a mis très longtemps à réagir, n'a pas répondu aux appels d'urgence et a même fermé ses bureaux locaux à des gens qui venaient porter plainte. Autre facteur aggravant, un député du camp pro-Pékin, Junius Ho, a été vu et filmé en train de serrer la main de tous ces gangsters et de leur taper sur l'épaule avec le pouce en l'air après les affrontements, ce qui semble confirmer que cette violence était commanditée par certains membres du camp pro-Pékin.
Hong Kong, Florence de Changy pour France Culture. Et décollage réussi vers la Lune, l'Inde a lancé ce matin une fusée du sud-est du pays. Au bout d'une vingtaine de minutes, le président de l'agence spatiale indienne a annoncé le succès de l'opération. L'expédition inhabitée a pour but de poser un atterrisseur et un robot mobile près du pôle sud de la Lune et de placer une sonde en orbite lunaire. Crime raciste, silence médiatique pour le député Les Républicains Éric Ciotti. Le racisme a en pleuré, s'indigne le premier secrétaire du PS Olivier Faure. La classe politique s'empare de la mort d'un Guinéen de 31 ans, Mamadou Barry, fraîchement diplômé d'une thèse de droit. L'homme a été tué vendredi à Canteleu, près de Rouen, le soir de la finale de la CAN qui opposait l'Algérie au Sénégal. Roué de coups. Un homme a été interpellé ce lundi, mais s'agit-il vraiment d'un crime raciste? Le point sur l'enquête avec Antoine Marette.
Eh bien, pour l'avocat de la famille, le mobile raciste ne fait pas de doute. Maître Jonas Haddad s'appuie sur les propos de l'agresseur rapportés par l'un des proches de Mamadou Barry présent sur place. Salle noire, on va vous niquer ce soir. À la suite de cette insulte raciste, l'universitaire sort de la voiture pour lui demander des explications et c'est à ce moment qu'il est frappé à coups de poing et de bouteille jusqu'à en mourir. Dans un premier temps, certains médias ont évoqué un agresseur d'origine maghrébine. Et certains politiques sont allés encore plus loin. Selon le député LR du Vaucluse, Julien Aubert, Mamadou Barry a été, je cite, tabassé à mort par des supporters algériens qui ont cru qu'il était sénégalais. Dans le même genre, le membre du bureau national du RN, Julien Audoul, explique, je cite, qu'il a été tabassé à mort par un supporter algérien parce qu'il était noir. Le député LR, Éric Ciotti, évoque, je cite à nouveau, un crime raciste perpétré par des supporters algériens. Sauf que le suspect interpellé ce matin n'est ni algérien ni même maghrébin. Il est de nationalité française et d'origine turque. Il a reconnu les faits et que l'avocat de la famille de la victime refuse lui-même de faire le lien entre cette agression et le match opposant l'Algérie au Sénégal. Le suspect est âgé de 29 ans. Il a des antécédents psychiatriques et au moment des faits, il était placé sous curatelle. Il est par ailleurs connu pour des faits de violence, notamment sur sa conjointe.
Antoine Marette, merci. Bercy s'attaque au portefeuille de Leclerc. L'amende est salée, 117 millions d'euros pour pratiques commerciales abusives. C'est l'une des plus grosses amendes jamais infligées dans le milieu de la grande distribution. Depuis les états généraux de l'alimentation et la loi qui en est issue, Leclerc était dans le viseur du ministère. L'enseigne rechignait à faire remonter les prix. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour.
Leclerc avait donc eu l'idée de passer par la Belgique.
Oui, les services de Bercy ont noté en effet une curieuse tendance du groupe Leclerc à délocaliser ses négociations commerciales vers ses centrales d'achat belges. Ces dernières années, de 4 fournisseurs concernés en 2017, on est passé à 27 en 2019. Or, faisait remarquer ce matin la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, il n'existe pas 27 multinationales agroalimentaires, ce qui signifie que ces pratiques concernaient aussi des entreprises de taille intermédiaire. Ce sont ces fournisseurs qui ont alerté la DGCCRF l'année dernière, des fournisseurs ayant eu maille à partir avec la centrale d'achat française de Leclerc, Galec, et 2 autres centrales d'achat situées donc en Belgique, Eurelec et Scabel. 3 centrales d'achat exerçant des pressions fortes pour faire baisser leurs prix à ces fournisseurs. Elles exigeaient des remises de 10%, surnommées dans le milieu taxe Lidl, car elles étaient surtout imposées aux fournisseurs de l'enseigne allemande, connue pour ses petits prix et gros concurrents de Leclerc. Enfin, ces remises étaient concédées sous la menace, notamment de déréférencement dans les rayons et sans aucune contrepartie. Du côté de chez Leclerc, on se défend en attaquant, pour le PDG du groupe, cette condamnation sans précédent est dans la droite ligne de ce qu'il considère comme une guerre du gouvernement contre le pouvoir d'achat des Français. De fait, il s'agit surtout de la mise en application d'une des dispositions de la loi issue des États généraux de l'alimentation, le relèvement du plafond des amendes pour ce genre de pratique. De toutes les enseignes de la grande distribution française, Leclerc avait été la plus rétive, vous l'avez dit, à cette loi, censée répartir plus justement la valeur entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Mais l'hyperconcentration des centrales d'achat de la grande distribution en France concerne toutes les enseignes et elle est en ce moment dans le viseur de l'autorité de la concurrence.
Anne Lorchouin. Anticor veut que les anciens dirigeants d'Alstom payent. L'association a déposé une plainte au pôle financier du parquet de Paris pour corruption et détournement de fonds publics après la vente du pôle énergie du groupe à l'américain General Electric et la fusion ratée avec l'américain Siemens. Il y a 5 ans, plaidant coupable de corruption, la personne morale d'Alstom a déjà été condamnée à payer une amende record de 772 millions de dollars aux États-Unis et un haut cadre de l'entreprise a écopé d'une peine de 30 mois d'emprisonnement. Un lampiste selon Anticor, qui veut que les personnes physiques coupables de la corruption soient poursuivies. Nicolas Hulot exhorte les députés à avoir le courage de dire non au CETA. L'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire signe une lettre ouverte publiée sur le site de France Info, alors que le traité de libre-échange devrait être ratifié demain par un vote solennel. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Nicolas Hulot prend position contre le texte qui comporte, selon lui, plusieurs points problématiques.
Oui, sur le fond, Nicolas Hulot rappelle déjà qu'il a lui-même été à la manœuvre dans ce dossier en tant que ministre de l'écologie et qu'il a échoué à obtenir les garanties nécessaires en matière de défense de l'environnement. Nous avons échoué, précise-t-il, sur le veto climatique, sur les farines animales qui servent à nourrir les bovins outre-Atlantique, sur les nouveaux organismes génétiquement modifiés et sur la sauvegarde du principe de précaution. Sur tout ça, l'Union européenne est restée sourde et elle s'est empressée de conclure des accords avec le Japon, avec le Vietnam, ainsi qu'un accord catastrophique, dit-il, avec le Mercosur, les pays d'Amérique latine. Le problème, explique Hulot, est que ces accords sont des accords commerciaux de nouvelle génération, le CETA y compris, qui ouvrent les portes du marché européen à de nombreux pays exportateurs et dont profitent les grandes multinationales que sont BASF, Bayer Monsanto, Syngenta, pour pouvoir vendre leurs produits fabriqués avec des pesticides en contournant la contraignante réglementation mise en place en Europe. Or, vous avez le pouvoir, dit Nicolas Hulot aux députés à l'Assemblée, en refusant de ratifier ce traité, d'exiger la réouverture des négociations et d'éclairer utilement le pouvoir exécutif, autrement dit Emmanuel Macron.
Cette lettre ouverte peut-elle avoir une réelle influence sur le vote des députés demain? En tout cas, l'ancien ministre pèse de tout son poids dans la balance.
Oui, Nicolas Hulot sait qu'il n'est plus ministre, mais qu'il reste une caution morale en matière d'écologie pour la majorité. Et il sait que cette majorité est assez mal à l'aise avec cette question du CETA. Certains sont pour, d'autres y sont opposés, d'autres encore s'interrogent. Depuis de nombreux mois, il est souvent reproché à ce gouvernement et à cette majorité de ne pas en faire assez en matière d'environnement. Il y a également le poids d'un autre député proche de Nicolas Hulot, le député du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, qui annonce également ce matin qu'il votera contre. Or, ce député a créé un groupe informel à l'Assemblée qui se mobilise sur les enjeux climatiques. Ce groupe compte un peu plus de 160 membres, dont de nombreux députés Modem et La République En Marche. En face, tous les groupes d'opposition sont unanimes, ils voteront contre. Même les centristes d'Agir et de l'UDI n'y sont pas favorables et devraient s'abstenir. Et puis, il y aura la présence demain à l'Assemblée de la jeune égérie de la lutte contre le réchauffement climatique, la Suédoise Greta Thunberg. Tout ça fait que si a priori la plupart des députés de la majorité devraient ratifier cet accord, certains pourraient malgré tout se poser des questions.
Et si vous voulez vous plonger dans cet accord de libre-échange avec le Canada, rendez-vous sur le site de France Culture qui vous propose un décryptage du texte. Le temps de ce lundi, l'épisode caniculaire débute. 21 départements du sud-ouest et du centre-est sont déjà en vigilance orange avec des températures qui prennent 10 degrés dans le sud-ouest par rapport à hier, des températures maximales jusqu'à 38 degrés en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie.